Chapitre 8. Les traqueurs d'hommes. C'était à la tombée du crépuscule qu'avait eu lieu la fuite désespérée. Le brouillard grisâtre qui s'élevait de la rivière enveloppa Elisa comme elle disparaissait sur le haut de la berge et que le courant gonflé, tumultueux, et les glaces flottantes élevaient une infranchissable barrière entre le chasseur et sa proie. Lentement, l'air déconfit, Hayley regagna la petite taverne pour y ruminer à l'aise sur le parti à prendre. L'hôtesse lui ouvrit un étroit salon garni d'un lambeau de tapis, d'une table couverte d'une toile cirée noire et luisante et de quelques misérables chaises à haut dossier de bois. Au-dessus d'une grille enfumée, le manteau de la cheminée se parait de plâtre colorié de tranchantes couleurs et, à côté, s'étendait un banc des plus durs et d'une longueur démesurée. Ce fut là que s'établit Hayley pour méditer à loisir sur l'instabilité des espérances humaines. « Qu'avais-je besoin de m'embourmer de cette petite malédiction d'enfant ? » se dit-il, « pour me faire railler, flouer et prendre comme un raccoon au gîte ?» Et Hayley se soulagea par une bordée d'imprécations sur lui-même, qu'il y a tout lieu de croire mérité, mais que, comme affaire de goût, nous nous permettrons d'omettre. La haute et discordante voix d'un homme qui mettait pied à terre à la porte de l'auberge tira le marchand de son monologue et, s'élançant à la fenêtre, il s'écria « Ciel et terre, si ce n'est pas juste comme qui dirait une providence ! Tom Locker en personne, ma foi !» Hayley sortit aussitôt. Devant le comptoir se tenait debout un homme bronzé, musculeux, haut de 6 pieds, large à proportion, et auquel son, surtout de peau de buffle, le poil en dehors, donnait un air farouche et terrible que ne démentait en rien sa physionomie. Chaque organe, chaque linéament qui puisse exprimer la brutalité et la violence atteignait sur ce crâne et sur ce visage leur plus haut développement. Si le lecteur peut se figurer un bouledogue passé à l'état d'homme, dressé sur ses pattes de derrière et se promenant en habit et en chapeau, il a une assez juste idée du physique de ce personnage. L'homme était accompagné d'un individu qui formait avec lui le plus parfait contraste. Ce dernier était court et fluet, souple et chatemite dans toute son allure. De ses petits yeux noirs pointait un regard de souris, perçant, inquiet, avec lequel le reste de ses traits aiguisés s'harmonisait on ne peut mieux. Son nez mince semblait s'allonger pour fouiller et sonder toute chose, ses cheveux noirs, plats, lisses et rares, ramenés en avant, se collaient sur son crâne, et tous ses mouvements, toutes ses évolutions, annonçaient une aride et circonspecte subtilité. Le grand gros homme se versa moitié d'une rasade de forte eau-de-vie et l'engouffra d'un trait sans mot dire. Le petit fluet, hissé sur la pointe des pieds, promena son nez d'un côté à l'autre du comptoir, flaira toutes les bouteilles et finit par ordonner, d'une voix de fossé mal assurée, un julep à la menthe qu'on lui servit et qu'il regarda d'un air de complaisance rusée en homme qui a mis le doigt sur la chose. Puis il sirota doucement le breuvage. Hey, « Eh, vivat ! » s'écria Hayley. « Qui m'aurait prédit cette bonne fortune ? Hola, Locker, comment vous va ?» Et il tendit la main au gros homme. « Au diable ! » fut la réponse polie. « Quel vent de grêle vous souffle ici, Hayley ?» L'homme rat, qui portait le nom de Marx et qui buvotait à petits traits dans son coin, s'interrompit, et fixa sur le nouveau venu un œil futé comme celui du chat qui épie la feuille sèche ou tout autre petit objet mobile et va s'élancer dessus. « Je dis, Tom, que c'est une chance. Je suis dans un diable de pétrin et je ne vois que vous qui puissiez m'en tirer. »« Peste probable !» gronda son aimable interlocuteur. « Celui à qui vous faites bonne mine peut bien jurer que vous en voulez tirer pied ou aile. Allons !» « Voyons où la mouche vous pique. »« Qui avez-vous là ? Un ami ?» demanda Hayley avec quelque hésitation en regardant Marx. « Un associé, peut-être ?»« Oui, da !» « Ici, Marx, voilà mon vieux partenaire de Natché. Enchanté de faire votre connaissance !» Et Marx tendit sa maigre patte de corbeau. « Monsieur Hellet, je pense !»«
Lui-même, monsieur, dit Hellet, et qui fêtera notre rencontre avec un verre ou deux de quelque chose de chaud ?»«
Hola, vieux raccoon » cria-t-il à l'homme du comptoir, « qu'on nous serve l'eau chaude, le sucre, les cigares et du rhum. » Du fameux, entends-tu, à discrétion, et faisons bombance.
Regardez, les chandelles brillent, le feu se réveille, et les trois dignes compagnons sont attablés autour des accessoires obligés de toute réunion de leur pareil.
Hellet se plongea sans retard dans le pathétique récit de ses tribulations. Bouche close, Locker l'écoutait avec une attention renfrognée. Marx, enfoncé dans la composition d'un nouveau breuvage à sa guise, s'en détournait pour fourrer son nez et son menton aigu presque dans la face du narrateur dont il scrutait chaque parole. La conclusion parut le réjouir infiniment, et ses épaules et ses côtes s'ébranlèrent du rire intérieur qui crispait ses lèvres minces.
« Ainsi, vous voilà la tête dans le sac. Enfoncé. Hi, 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 le tour est bon !»
« Ces bambins, reprit Hellet d'un ton lamentable, sont la perte du commerce.
Si nous pouvions mettre la main sur une race de femmes qui ne se soucia pas des petits, je dis que ce serait la plus grande découverte du siècle. »
Et Marx appuya sa plaisanterie d'un froid ricanement.
« Juste, dit Hellet, ça me passe. Ces petits ne leur donnent qu'un tas de fatigue et de tourments. Il semble qu'elle devrait être enchantée de s'en voir débarrassée. Eh bien non, plus un petit est tracassant et bon à rien, plus elles sont endiablées après.
Eh bien, monsieur Hellet, reprit Marx, passez-moi un peu l'eau chaude.
Oui, monsieur, c'est comme vous le dites, nous en sommes tous là. Figurez-vous qu'une fois, je faisais le commerce alors. J'achète une fille robuste, bien faite, une jolie drôlesse, ma foi, est fort capable. N'avait-elle pas un enfant maladif, rachitique, crochu, que sais-je? Je lâchai l'embryon à un homme qui prit la chance de l'élever, l'ayant eu pour une bagatelle. Je n'allais pas rêver, moi, que la fille se montrait la tête pour ça, vous sentez? Mais, Seigneur Dieu, je voudrais que vous l'eussiez vue. Quel vacarme! Vraiment, elle semblait priser d'autant plus le petit qu'il était maladif, grognon, un vrai fléau après elle. Et c'est que c'était pour tout de bon. Elle pleura, elle se lamenta, elle se jeta par terre. On aurait dit qu'elle avait tout perdu. C'est une drôle de chose tout de même que les caprices des femmes. C'est à s'y perdre.
Encore mon histoire, reprit Hellet. Pas plus tard que l'été dernier, sur la rivière Rouge, j'achète une fille et son enfant, un marmot de bonne mine, avec des yeux aussi brillants que les vôtres.
Eh bien, n'était-il pas aveugle, mais tout à fait aveugle?
Motus, bien entendu, et je vous le troque joliment contre un baril d'eau-de-vie. Mais quand il fut question de l'ôter à la mer, oh, c'était une vraie tigresse! Par malheur, ça se trouvait avant le départ, et ma bande n'était pas encore à la chaîne. La femme n'en fait ni une ni deux, elle arrache un couteau à un des matelots, saute comme un chat sauvage sur une balle de coton et met tout notre monde en fuite. C'était bon pour la minute, bien entendu. Quand elle voit ça, elle se retourne et pan, elle s'élance, la tête à la première, enfant et tout, dans la rivière où elle est encore.
« Bah !» dit Tom Locker, qui avait écouté avec un évident mépris. « Vous n'êtes tous deux que des poules mouillées. Mes filles ne se permettent pas de pareils tours avec moi. »
Vrai? Et comment les en empêchez-vous, je vous prie?
Demanda Marx vivement.
Moi, quand j'achète une fille, dès que son petit est mûr pour la vente, je vais droit à elle, je lui mets le poing sous le nez.
Regarde-moi ce poing, lui dis-je. Si tu t'avises de souffler, tu vois ce qui t'aplatira la face. Je ne veux pas entendre un mot, pas le commencement d'un mot. Ce petit est à moi, non à toi, et tu n'as que faire de t'en inquiéter. Je le vends à la première occasion. Prends garde, pas de farce. ou je te ferai souhaiter de n'être jamais né. Je vous garantis qu'elles savent qu'il ne s'agit pas de rire quand j'empoigne, et je vous les rends muettes comme des poissons. S'il s'en trouve une qui piaille un brin, alors !»
Le poing de M. Locker, descendant pesamment sur la table, acheva sa phrase.
« Voilà ce qui s'appelle de l'éloquence !» dit Mars, tapant sur le ventre de Haley en riant. « Est-il original, cet homme ? Hi, hi, hi ! Parions qu'il n'y a pas tête crépue qui ne comprenne, quelque dure qu'elle soit. Vrai, Tom, vous savez faire entrer les choses dans la cervelle, vous. Et si vous n'êtes pas le diable, par ma foi, vous êtes son cousin germain. »
Locker accepta le compliment avec la modestie voulue et prit l'air aussi affable que le comportait son naturel de bouledogue. Quant à Haley, qui ne s'était pas ménagé les spiritueux, il commençait à sentir en lui une recrudescence de moralité, phénomène qui n'est pas rare en pareille occurrence chez les hommes graves et méditatifs.
« Là, Tom, eh bien, je vous l'ai toujours dit, vous êtes par trop rude. Nous en avons souvent causé ensemble à Natchez. Et comme je vous l'ai prouvé maintes et maintes fois, à ménager quelque peu la marchandise, on n'en fait pas moins son chemin dans ce bas monde. » Et l'on conserve plus de chance pour l'autre, vienne le pire du pire, voyez-vous.
Pouah ! Eh, je vois de reste, n'allez pas me débiter toutes vos fadaises de rebut, allez ! Je n'ai déjà pas l'estomac trop solide, et ça me tourne sur le cœur.
Cessant de parler, Tom absorba un demi-verre d'alcool pur.
Je dis, et se renversant sur sa chaise, Haley gesticula avec véhémence. Et je le maintiens, j'ai toujours poussé mon commerce de façon à faire autant que ce soit, primo et d'abord, de l'argent. Mais le trafic n'est pas tout, l'argent n'est pas tout. Nous avons des âmes, tous tant que nous sommes, au bout du compte. Peu m'importe qu'on hausse les épaules, j'ai mon opinion là-dessus et rien ne m'empêchera de la dire. J'ai une religion, j'y crois, et quelqu'un de ces jours, quand j'aurai arrondi mon petit lopin, je songerai sérieusement à mon âme. À quoi bon se faire plus méchant que de raison? Est-ce agir prudemment? Je le demande.
Songer à votre âme, répéta dédaigneusement Tom. Fameux lorgnon que celui qui découvrirait la vôtre. Ménagez le frais pour cette denrée-là, elle est, croyez-moi. Si le diable s'avise jamais de vous passer au crible, je le défie, ma foi, de trouver trace d'âme.
Ah, ça, Tom, vous êtes par trop bourru aussi. Ne sauriez-vous prendre en bonne part ce qu'on ne vous dit que pour votre bien?
Laissez donc reposer un peu vos mâchoires, Haley, vociféra Tom. Je puis endurer toutes vos balivernes, hors vos fadaises dévotes. Vos prêches m'assomment, vous dis-je. Quelle différence y a-t-il de vous à moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un brin de plus de pitié? Un brin de plus de vergogne ou de quoi que ce soit? C'est de la bonne, belle et pure vilenie pour duper le diable et sauver votre peau. Croyez-vous qu'on ne vous devine pas avec toute votre religion, comme vous l'appelez? Eh, cela saute aux yeux. Affaire de tricher le diable, tirer quittance et ne pas payer.
Allons, allons, messieurs, il ne s'agit pas de cela, dit Marx s'entremettant. Il y a différentes façons d'envisager les choses. Monsieur Haley est un homme scrupuleux. Il a sa conscience, et vous, Tom, vous avez votre système. Et un bon système, Tom. Mais les querelles n'avancent à rien. Voyons, monsieur Haley, de quoi s'agit-il? De vous l'attraper, la fille, n'est-ce pas?
La fille ne me concerne en rien. Elle est au Shelby. C'est son petit seulement que je veux.
« Sot que je suis d'avoir acheté le singe !»«
Et quand ne l'êtes-vous pas, sot ?» dit brusquement Locker.
« Allons, Tom, trêve aux bourrasques !» reprit Marx en se léchant les lèvres. « Voyez, voilà M. Haley qui, je le sens, est en train de nous mettre sur une bonne piste. Tenez-vous seulement tranquille, ces transactions-là sont mon fort. Cette fille, M. Haley, comment est-elle ?»
Oh, belle et blanche, très bien élevée, j'en offrirai à Shelby de 800 à 1 000 $. Et il y avait à gagner. Blanche, belle, bien élevée ?
Répéta Mars, et ses yeux perçants, son nez, ses lèvres, ses guisèrent de cupidité.
Voyez un peu, Locker, cela promet. Il y a une affaire pour nous là-dedans. Nous entreprenons la chasse. L'enfant va à Monsieur Haley, c'est clair. Et nous emmenons la fille à la Nouvelle-Orléans pour spéculer dessus. Est-ce beau, hein ?
Tom, dont les pesantes mâchoires étaient restées entrebâillées durant cette communication, les referma tout à coup, comme s'il happait un bon morceau, et se disposa à digérer l'idée à loisir.
« Voyez-vous, dit Marx à Haley, tout en continuant de remuer son punch, nous avons le long du rivage des juges de paix accommodants, comme il les faut dans notre profession. Tom mène d'abord l'affaire et tape dur. Puis, j'arrive à mon tour, quand il s'agit de prêter serment, bien vêtu, bottes vernies, tout à fait dans le grand genre.
« Que ne pouvez-vous voir ? » poursuivit Marx dans un accès de vanité bien naturel.
« Ma façon d'enlever les choses. Un jour, je suis Monsieur Twickem de la Nouvelle-Orléans. Une autre fois, j'arrive de ma plantation au bord de la rivière de la Perle, où j'emploie environ 700 noirs. Ou bien, je suis parent éloigné de Monsieur Henry Clay ou de quelque autre vieux coq du Kentucky. Chacun a son talent en ce monde. Tom, un vrai lion quand il faut frapper ou combattre, ne vaut rien du tout pour mentir. Non, Tom ne s'en tirera jamais. Cela ne lui vient pas naturellement. Mais, par le ciel, s'il y a dans le comté quelqu'un qui puisse faire serment de toutes choses, à toutes gens, raconter les incidents, multiplier les circonstances, se vanter d'un air plus grave et s'en tirer mieux que votre serviteur, je serai ravi de la voir et je n'en dis pas plus. Ma parole, si je ne me crois pas sûr d'entortiller mes juges, quand même ils se feraient scrupuleux. Je le voudrais, par ma foi. La farce en aurait plus de mon temps. Ce serait plus drôle. »
Tom Locker, qui, on l'a pu voir, était lent de conception, lourd de mouvement, interrompit ici Marx en donnant sur la table un coup de poing qui fit danser les verres.
« Ça ira ! » s'écria-t-il. « Dieu vous bénisse, Tom. N'allez pas briser la vaisselle. Réservez votre poing pour les cas d'urgence. »«
Mais, messieurs, n'aurais-je pas une part du profit ?» demanda Haley.
« Quoi ? N'est-ce pas assez que nous attrapions l'enfant pour vous ? Que vous faut-il encore ?» dit Locker. « Et n'est-ce pas moi qui ai fait lever le gibier ? Cela vaut quelque chose, je présume. 10% sur les bénéfices, tout frais prélevés. Voyons. »
Pour le coup, s'écria Locker avec un formidable juron et en écrasant presque la table. Vous voilà bien, vous, Daniel Haley.
Ah, vous prétendez trancher du grand seigneur avec moi. Nous nous serons fait traqueurs d'esclaves fugitifs, Marx et moi, pour les beaux yeux des gentilshommes de votre espèce, et gratis de plus. Non, de par tous les diables. La fille est pour notre compte, et tenez-vous tranquille, ou nous gardons les deux. Qui empêche ? Vous nous avez montré le gibier, d'accord. Libre à vous de courir su, et à nous aussi, je présume. S'il plaît à vous ou à Shelby de nous actionner, soit à merveille. Cherchez où sont les perdrix de l'an passé, vous nous trouverez peut-être sous les ailes.
Eh bien, à la bonne heure, c'est convenu, dit Haley alarmé. Vous me rattraperez le garçon pour ma peine. Nous avons fait nombre d'affaires ensemble, Tom. Vous avez toujours joué franc jeu avec moi. Et je sais que vous êtes homme de parole.
Ah, vous le savez, je ne donne pas dans toutes vos momeries, moi. Mais je suis recta dans mes comptes, fût-ce avec le diable lui-même. Ce que je dis, je le fais et le ferai. Vous savez ça, Daniel Haley.
Ainsi dit, ainsi fait, Tom. Vous promettez de déposer l'enfant sous 8 jours à l'endroit que vous désignerez vous-même, et je m'en tiens pour content.
Oui, da. Mais pas moi, et vous êtes loin de compte. Ce n'est pas rien que j'ai fait si longtemps des affaires avec vous, Haley, là-bas à Natchez. J'ai appris à ne pas lâcher l'anguille quand je la tiens. Vous m'allez débourser tout de suite sur table $50 ou pas d'enfant. Comment, quand vous avez sous la main une magnifique affaire qui vous rapporte clair et net de 1 000 à 1 600 $? Ah, Tom, vous n'êtes pas raisonnable.
Vraiment? et n'avons-nous pas plus de 5 semaines d'ouvrage inscrits sur nos livres, plus que nous n'en pouvons faire? Supposez que nous plantions tout là pour battre les buissons après votre bambin, et qu'en résultat, nous n'attrapions ni l'enfant ni la mère. C'est toujours le diable à rattraper que ces filles. Nous voilà bien lotis. Nous payeriez-vous un sou d'indemnité? Il me semble que je vous y vois, hein? Non, non, étalez-moi là-dessus vos $50. Si le gibier est à nous et qu'il réponde, l'argent sera rendu. Sinon, c'est pour nos peines. Est-ce jouer franc jeu? Eh, Marx!
Certainement, certainement, dit ce dernier d'un ton conciliant. Simple garantie d'honoraire, c'est tout. Nous sommes quelque peu légistes, mais pas moins bons enfants pour cela. Ainsi, nous voilà d'accord. Tom déposera l'enfant où vous voudrez, n'est-ce pas, Tom?
Si j'agrippe le marmot, je l'amène à Cincinnati et je le laisse chez la grand-mère Belchu au débarcadère, dit Locker.
Marx avait sorti de sa poche un carnet taché de graisse, d'où il tira un long papier. La tête dans ses mains, fixant sur sa liste ses perçants yeux noirs, il en marmotta le contenu entre ses dents.
« Barnes, comté de Shelby, son garçon Jim. $300 pour lui, mort ou vif. Edwards, Dick et Lucy, mari et femme, $600. La négresse Polly, avec 2 enfants, $600. Elle ou sa tête. Je parcours l'agenda pour voir si l'affaire peut être prise en main sur le champ. »
dit-il, interrompant sa lecture.
Locker, reprit-il après une pause, si nous passions la Polly à Adams et Springer, voilà longtemps qu'elle est sur le registre.
Ils demanderont trop cher, murmura Tom.
J'arrangerai la chose à un taux raisonnable. Ils débutent et doivent se faire plus coulants. Voyons, il y a 2 ou 3 cas faciles, de l'ouvrage courant, un coup de fusil à tirer sur les fuyards. Attrape qui peut, et il ne s'agit plus que de jurer qu'ils sont tués. On ne saurait faire payer cela beaucoup. Les autres commandes attendront. Maintenant, arrivons aux détails. Vous dites donc, monsieur Halley, que vous avez vu la fille grimper sur l'autre bord.
Sûr, vu comme je vous vois.
Et un homme l'aidait à grimper, ajouta Locker.
Très sûr, je l'ai vu.
Elle aura été recueillie quelque part, ce n'est pas douteux, reprit Marx. Mais où? C'est la question. Qu'en dites-vous, Tom?
Moi, je dis qu'il faut traverser la rivière ce soir et s'embarguigner.
C'est qu'il n'y a point de bateau et l'eau charrie en diable. N'est-ce pas dangereux, Tom?
Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut traverser.
Diable! Reprit Marx s'agitant, et, se rapprochant de la fenêtre, il ajouta. C'est noir comme la gueule d'un loup. Hé, Tom!
Le court et le long, c'est que vous avez peur, Marx. Mais je ne puis qu'y faire. Il faut marcher. Prenez 1 jour ou 2 de campo, vous leur donnez le temps, avec leurs manœuvres souterraines, de faire filer la fille jusqu'à Sandusky, et elle vous passera sous le nez.
Oh, je n'ai pas l'ombre de peur, dit Marx. Seulement...
Seulement quoi? Demanda Tom.
Le bac, parbleu! Vous voyez qu'il n'y a pas de bateau!
L'hôtesse a dit qu'il y en aurait un ce soir. Un batelier doit traverser. Nous risquons notre coup et passons avec lui, reprit Tom.
Vous avez des chiens, sans doute? Dit Haley. De premier choix, répliqua Marx. Mais à quoi bon? Nous n'avons rien à leur faire flairer.
Si, vraiment! S'écria Haley d'un air de triomphe. « J'ai là son châle, oublié sur le lit dans sa hâte, et elle a laissé aussi son chapeau. »«
Une vraie chance, dit Locker. Allongez-moi ces guenilles. »«
Gare cependant au chien, fit observer Haley. Il pourrait, si l'on y va sans précaution, endommager fort l'article. »«
C'est à considérer, répondit Marx. L'autre jour, à Mobile, nos chiens n'ont-ils pas mis en nègre plus d'à moitié en pièces avant que nous ayons pu le leur arracher?
Il faut y regarder de près, surtout en fait d'articles vendus pour leur beauté, voyez-vous?
Je vois très bien, elle est, répliqua Marx. Puis, si la fille est gitée, les chiens deviennent superflus. Ils comptent d'ailleurs pour peu dans vos états du Nord, où ces créatures sont voiturées. Ce n'est plus comme dans nos plantations, où le noir qui s'enfuit n'a recours qu'à ses jambes et n'est point secouru.
« Allons, » dit Locker qui était allé prendre langue au comptoir. « L'homme arrive avec le bateau. En route, Marx. »
Ce dernier, pauvre homme, jeta un triste regard sur les confortables quartiers qu'il lui fallait abandonner et se leva lentement pour obéir. Après avoir échangé quelques mots sur les arrangements ultérieurs avec les deux associés, Haley déboursa, non sans une répugnance visible, les $50 convenus, et le digne trio se sépara. Si la délicatesse de quelques-uns de nos lecteurs chrétiens se trouve choquée de la société dans laquelle cette scène vient de les introduire, qu'ils veuillent bien faire taire leurs préjugés et ajourner leurs scrupules. Le métier de traqueur d'esclaves est en hausse et promet, grâce à la nouvelle loi, d'être un jour une honorable, patriotique et légale profession. Si tout le large territoire qui s'étend du Mississippi à l'océan Pacifique devient un grand bazar pour le débit des corps et des âmes et que la marchandise garde la mobilité que lui imprime le XIXe siècle, le marchand et le traqueur d'esclaves pourront prendre un haut rang dans l'aristocratie américaine.